France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Ce soir, on va parler de notre N plus 1, celui avec qui vous travaillez et à qui vous rendez des comptes. Que pensez-vous de votre manager ? Le dernier rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, paru il y a quelques jours, est sévère avec les chefs. Le management à la française est trop vertical, trop autoritaire, trop hiérarchique. Les sachants d'un côté, les exécutants de l'autre. Et peu d'interaction finalement entre les deux, sans compter la reconnaissance au travail. Et la France fait beaucoup moins bien que ses voisins. Allemagne, Irlande, Italie, Suède. Alors est-ce un problème conjoncturel, structurel, voire culturel? Une mauvaise formation des managers, le reflet d'une crise de sens dans notre rapport au travail, le dialogue social lui vire parfois au dialogue de sourds, alors qu'on parle de plus en plus de qualité de vie au travail. D'un côté, les chefs d'entreprise ont du mal à recruter face à des salariés de plus en plus exigeants. Alors comment se comprendre? Quelle est la bonne distance? Ça pose aussi la question de notre rapport au travail. Vous êtes salarié, fonctionnaire, manager, parlons-en tous ensemble. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenue.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Clara.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci beaucoup et merci pour votre émission que j'écoute tous les soirs. Moi je voulais témoigner de l'importance de rendre obligatoire la formation des managers parce que derrière ce sont des êtres humains. Et moi au début de ma carrière j'ai eu une manager extrêmement toxique et j'ai fini en arrêt maladie. Et aujourd'hui, il y a énormément de ressources de formation. Et quand on voit les conséquences que ça a, et notamment sur l'épuisement professionnel et la perte de sens, je pense que c'est important qu'on la rende obligatoire, tout comme on rend obligatoire sur des normes de sécurité ou autres, d'autres formations.
Merci Clara, vous avez bien posé le débat. Pour vous répondre, Salima Benhamou, docteur en économie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez au département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie et vous avez coécrit avec Édouard Lorenz le rapport « Les organisations du travail apprenantes, enjeux et défis pour la France » paru en 2020. On va y revenir parce qu'il y avait plein de choses dans votre rapport. Julien Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, auteur de « Recherche désespérément salariés » paru chez Fayard. Et bonsoir à vous, Gaël Bourron.
Bonsoir.
Responsable des études à l'Association pour l'emploi des cadres. Clara disait à l'instant, il faut rendre obligatoire la formation des managers. C'est pas le cas, ça paraît presque fou en fait, Salima Benhamou.
Oui, ça paraît fou, surtout que ce sont des situations que l'on entend très souvent et qui sont malheureuses. Je veux dire, des managers effectivement qui sont toxiques. Les managers sont formés, mais ils sont surtout formés sur des compétences qui sont techniques et moins sur des compétences ou des aptitudes à l'animation des équipes et aussi à parfois résoudre des problèmes, que ce soit dans la gestion des conflits ou d'autres choses.
On a regardé, en préparant cette émission, on a regardé les masters en management à HEC et dans le contenu des cours, on n'a rien trouvé sur la gestion humaine.
Ben, c'est malheureux.
Qu'est-ce que vous en dites, Gaël Bourron ?
Alors, les managers ne sont pas que des experts en management. Ils ont effectivement une expertise technique. Et cette expertise technique, elle est essentielle. C'est une demande aussi des collaborateurs pour ne pas manager hors sol. Il est essentiel que les managers aient une expertise, au moins des compétences de base, dans le domaine des collaborateurs qui l'encadrent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les managers, 60% des managers aujourd'hui, ont été promus à ce poste. Ils ont été promus, ils viennent du terrain, ils viennent de la promotion interne. Et c'est un moyen important pour les entreprises d'évaluer leurs compétences comportementales et relationnelles avant de les confier à une équipe. Mais c'est vrai que une fois qu'ils arrivent à cette fonction de manager, ils ont besoin de formation, il y a nécessité de se former continuellement. Alors certains disent
et c'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui en termes de formation professionnelle. On a ça au cours de sa carrière quand même quand on est nommé.
Quand on devient manager, on a effectivement des formations, mais ces formations elles doivent être revues. C'est un processus continuel parce que pour être manager, l'expérience de terrain ne suffit pas. L'expérience sans outils, sans réflexion conduit souvent à des erreurs. Et l'importance dans la fonction managériale, c'est aussi la posture réflexive, la capacité à prendre du recul sur son activité. C'est hyper important pour arriver à ensuite conduire ses activités sur le terrain.
Julien Leclerc, vous êtes chef d'entreprise.
Oui, ça, ça fait mal au cœur quand on entend ça. Moi, j'ai racheté un restaurant il y a quelques années. C'est un métier qui paye sans doute ça, qui paye quelques décennies à avoir pas toujours très bien traité les gens, notamment en cuisine. Je crois que ça change. Je crois que le rapport de force est considérablement équilibré, voire inversé. On a aujourd'hui beaucoup de dirigeants qui disent vivre des entretiens inversés, avec des candidats qui disent « mais pourquoi je viendrais bosser chez toi ?» Il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont en tension. Donc je suis optimiste là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez un manager toxique, fuyez. Après, je suis toujours prudent sur les formations, évidemment, qu'il faut former. Alors, est-ce qu'il faut rendre ça obligatoire ?
Vous, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous avez été formé ?
Alors, j'ai choisi de le faire, donc j'ai suivi des formations. Mais on forme à quoi, en fait ? Il faut former, je rejoins ce que Gaël vient de dire, il faut former à de l'écoute, il faut former à avoir envie de partager quelque chose, il faut se parler. Manager en 2025, ça n'a rien à voir avec manager en 2018, ça aussi tout le monde vous le raconte. Il y a d'ailleurs de moins en moins de monde qui veut le faire.
C'est-à-dire avant ou après le Covid ?
Oui, il y a eu un vrai virage Covid, un virage télétravail, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et manager les humains aujourd'hui, c'est, je pense, plus difficile qu'il y a quelques années. Donc c'est aussi pas simple d'être manager. Et sans doute, c'est ce manque de recul qui rend certaines personnes toxiques.
Je voudrais qu'on reprenne les bases, peut-être avec vous, Salima Benhamou. Qu'est-ce qu'un manager ? Parce que ça recouvre plein de réalités, en fait.
Effectivement, c'est important de partir de la définition de ce qu'est un manager. Un manager, c'est... Moi, j'aime bien prendre l'exemple du compagnonnage. Au-delà des compétences techniques, ceux qui accompagnent les équipes, ce sont aussi ceux qui transmettent des valeurs. Qui transmettent des valeurs aussi qui renvoient au rapport aux autres et au rapport au travail bien fait. Et ça, ça a été renseigné dans beaucoup, beaucoup de travaux en sociologie, notamment ceux de Philippe Thierry Barnes sur la fierté du travail bien fait. Mmh. Et les Français, quand vous avez parlé justement dans vos propos préliminaires de l'importance du rapport au travail, les Français ont un rapport spécifique au travail, qui est celui de bien faire son travail. Mmh. C'est pas uniquement de remettre en question les hiérarchies, c'est aussi qu'on reconnaisse et qu'on valorise leurs compétences. Et parfois, dans les organisations, eh bien, de ceux qui sont promus à des postes d'encadrement, ce sont parfois des personnes, excusez-moi, vous avez parlé des personnes issues du terrain, ça c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au Japon, c'est vrai aussi en Angleterre, mais c'est peu en France. Je dirais le statut du diplôme
est central.
Et ça structure les organisations, ça structure les processus de décision. Quand il s'agit d'une personne, d'un manager qui est toxique...
Et ça fige, pardon, mais ça fige aussi complètement les choses.
Ça fige, et puis ça met des frontières entre les métiers, ça empêche le travail aussi interdisciplinaire quand on doit résoudre des problèmes.
Allez, on repart au standard accueillir. Sébastien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Oui, merci. J'ai écrit de façon un peu vulgaire un petit message, mais c'était vraiment le ressenti que j'avais. J'ai été longtemps cadre commercial chez des constructeurs automobiles, avec une pression assez forte sur les objectifs à atteindre, les immatriculations, etc. Et cette pression à court terme, en fait, empêchait tout travail de fond à long terme. Et un jour, j'ai dit, mon chef, Moïne Plusin, m'a dit, je sais que c'est con ce que je te demande de faire, mais tu vas le faire parce que je te demande de le faire. Là, je lui ai dit, excuse-moi, mais tu marques pas des points. Il m'a dit, faut pas me manquer de respect. Je lui ai dit, je te manque pas de respect, c'est la réalité. Voilà. Et en fait, après, j'ai compris que lui était terrorisé, c'est peut-être pas le mot, mais qu'il avait une grosse pression de la part de mon N+2, et que du coup, lui n'arrivait pas finalement à gérer cette pression. Et on s'est retrouvé finalement à un entretien annuel, et ils m'ont proposé une rupture conventionnelle, parce que ma façon de leur répondre, je pense, était plus en phase avec ce qu'ils attendaient. Du coup, ils m'ont libéré, j'étais ravi, et je suis reparti en formation. Dans la menuiserie, aujourd'hui je travaille tout seul, j'ai des donneurs d'ordre, je fais ce que je veux quand je veux, j'ai pas de chef, j'ai pas de salarié, et ça c'est... je gagne moins bien ma vie qu'avant, mais je suis tellement mieux dans ma tête.
Mais vous êtes libre et vous n'avez plus de chef au-dessus de votre tête, c'est ça?
Non, j'ai plus de chef. Les gens avec qui je discute, ce sont en fait des partenaires.
Oui.
C'est qui me confient du travail.
Mais oui, mais en fait, c'est intéressant ce que vous dites. Ce sont des partenaires. Vous auriez aimé être le partenaire de votre chef, en fait. C'est ça, Sébastien?
Exactement. Et un jour, il y a un des partenaires au début qui me dit « Ah, j'aimerais bien que tu travailles aussi pour le magasin de tel endroit. » Et c'était un peu loin de chez moi. Et j'ai hésité à lui dire non. Et puis je me suis dit « Ça, c'est bon, t'es indépendant, t'es pas salarié. » Je lui ai dit non. Et voilà, et puis on continue à travailler ensemble sur un secteur plus limité et ça se passe très bien. Mmh. Voilà, et c'est ça que j'aurais aimé avoir. C'est des chefs comme ça que j'aurais aimé avoir. Voilà.
On est au cœur du sujet, Gaël Bourron.
Ah oui, totalement. Merci pour ce témoignage. Vous le dites très bien. Pour être un bon manager, il faut être aussi un manager qui va bien. Et là, malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est souvent peu le cas dans nos enquêtes. Hein, on voit que 6 cadres managers sur 10 déclarent se sentir épuisés professionnellement, au moins de temps en temps. On a des cadres managers qui nous parlent de stress intense, de charges de travail insurmontables, de difficultés à décrocher le soir et le week-end. C'est aussi ça la réalité des managers aujourd'hui, avec un niveau de pression qui est très supérieur à ce qu'on peut mesurer quand on interroge les cadres non managers. Alors pourquoi cette situation ? Sans doute parce que le rôle du management a évolué, vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure. Alors traditionnellement, c'est une fonction exigeante, hein, on parle souvent du être entre le marteau et l'enclume, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux managers beaucoup, beaucoup de choses, et des choses qui sont parfois difficiles à concilier.
Par exemple,
on lui demande d'être performant, d'assurer la performance de son équipe, mais en même temps, de faire en sorte que son équipe soit bien, soit dans un bien-être au travail. On va lui demander, depuis la crise Covid, de jongler entre des équipes à distance, en télétravail, mais en même temps, avec une nécessité de fédérer les personnes, de souder le collectif. Donc, on demande aux managers d'être performants, d'être bienveillants, d'être disponibles, d'être exemplaires. Et on oublie un peu que c'est aussi des collaborateurs comme les autres qui ont besoin de soutien, de clarté dans les missions qu'on leur donne, de reconnaissance. C'est vrai qu'un bon management, c'est sans doute aussi une organisation globalement qui prend soin des managers.
Julien Leclerc ?
Oui, je crois que j'aurais aimé savoir si son N+1, son ancien boss, était toujours dans la boîte. Je suis à peu près sûr de la réponse négative. Oui, ce sont des humains. Je crois beaucoup profondément, même dans des très grands groupes, à la responsabilité tout en haut. Je crois que quand on assène des valeurs, on est capable de vérifier qu'elles sont bien respectées à tous les étages. On en a intérêt puisqu'on sait que un mauvais N+1, en tout cas un N+1 qui est mal vécu, c'est une des premières raisons, voire la première raison de départ d'une entreprise.
Donc on a intérêt. Mais est-ce que les valeurs ne volent pas en éclat face à la pression des objectifs? C'est très difficile à tenir, de tenir les deux bouts, si j'ose dire.
Je ne crois pas, parce que en fait, on est toujours en train d'opposer les intérêts des uns et des autres, et je ne crois pas qu'il y ait un morceau, une enclume. Je pense qu'on est tous dans le même sens. Tout le monde a envie d'aller au travail le cœur léger et plutôt avec le sourire qu'autre chose. Un manager, un patron comme un salarié. Et je crois que les intérêts économiques vont de pair avec une réussite sociale, avec un climat social apaisé. Je pense que c'est de plus en plus difficile de trouver cet équilibre avec des aspirations individuelles qui sont quand même de plus en plus fortement exprimées depuis le Covid. On a été très très loin dans le culte de l'individualité et aujourd'hui un patron comme un manager est un peu le garant de l'intérêt individuel de l'entreprise ou de l'intérêt collectif si on veut l'appeler comme ça. Je crois que tout ça peut aller ensemble, mais je crois que c'est effectivement du travail. Je crois que c'est aussi, ça exprime quelque chose de beaucoup plus général dans la société, d'apprendre ou de réapprendre à se parler, à s'écouter, ne pas avoir peur de construire ensemble.
On va prendre Fred en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cadre et manager.
Oui, effectivement, je suis cadre dans une collectivité territoriale. Je travaille également en ressources humaines et je suis amené à recruter des managers, à recruter des agents et aussi d'accompagner les managers, parfois qui sont en difficulté.
Mmh. Et alors ?
Et donc, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de manager toxique. Ça existe, hein, effectivement, et je pense que vous l'avez évoqué, les compétences relationnelles sont de plus en plus importantes pour nos managers, mais moi je peux identifier également dans l'accompagnement qu'on a des managers qui sont en grande difficulté aussi parce que, on se le dit entre nous, on n'est pas des psychologues du travail et parfois il y a des difficultés avec des agents et où ça devient particulièrement difficile pour l'agent et même pour parfois les structures et les RH d'arriver à gérer des situations qui sont complexes, et on manque parfois un petit peu de ressources pour gérer des situations qui dépassent le cadre de la relation de travail, qui sont d'ordre psychologique. Mmh. Et on a besoin d'armer nos managers sur la relation, mais parfois aussi, alors je sais, j'ai pas toujours la solution, hein, mais de pouvoir avoir des appuis sur des difficultés que nos managers peuvent rencontrer sur des relations qui finissent par être toxiques, mais pas uniquement du côté du manager.
Mmh. Est-ce que vous avez une formation, par exemple, en psychologie du travail, Fred ?
Non, on n'a pas de formation en tant que telle. Aujourd'hui, effectivement, l'offre de formation s'est largement élargie. On a recours aussi à quelques outils pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître soi-même en tant que manager, pour mieux connaître ses collaborateurs. Mais ça peut atteindre ses limites, et le manager, comme vous l'avez évoqué, il a aussi la performance du collectif. On a de plus en plus du mal à recruter des collègues qui sont prêts à prendre ces fonctions de manager, et on a de plus en plus de cadres qui vont justement chercher à fuir la question de la relation managériale, parce que c'est particulièrement complexe, d'où la nécessité pour les organisations de les accompagner par la formation, mais aussi parfois de les aider quand ils sont dans l'impasse.
Oui, absolument. Vous disiez quelque chose d'intéressant, Fred, vous disiez on a du mal à recruter, vous confirmez, Julien Leclerc ?
Oui, toutes les études montrent qu'il y a des vraies tensions, notamment sur le sujet du management. Il y a de moins en moins de monde qui veut de ces responsabilités-là parce qu'elles sont lourdes, parce qu'elles sont stressantes, parce qu'il faut être armé. On est dans un studio dont les murs sont rouges, vous avez des salariés qui viennent et qui vous disent le mur est blanc, et votre travail n'est pas d'avoir raison, mais d'essayer de comprendre. Il faut être armé pour ça, il faut être formé, effectivement. Et puis, je crois qu'au-delà de la formation, il y a tout un nouvel équilibre à trouver dans l'entreprise, entre le télétravail, pas le télétravail. On manque cruellement de joie, c'est un mot dont on reparle un petit peu en ce moment. On a besoin de joie dans les entreprises, quand il n'y a plus de sourire, quand il n'y a pas de perspective, quand il y a des tensions financières aussi. On a beaucoup parlé de reconnaissance, il y a quand même un sujet qui revient beaucoup sur le dessus de la pile aujourd'hui dans les critères de bonheur au travail, c'est la juste rémunération, c'est celui de l'argent, donc le salaire ou le pouvoir d'achat. Tout ça, c'est vachement de pression. Donc, quand vous rentrez chez vous, c'est pas quelque chose que vous oubliez et que vous avez laissé au travail en plus.
Mmh. Donc, Salima oui. Benhamou, il n'y a pas de joie au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Julien Leclerc ? Pardon, excusez-moi.
Pas partout. Il y a des organisations qui fonctionnent bien et il y a des organisations qui ne fonctionnent pas bien. Et ça, je pense que c'est pas uniquement lié au manager, ça peut être aussi lié à la gouvernance même d'une organisation. Ouais. Et puis après, ces modes ou ces choix stratégiques, les moyens que l'on met, les budgets que l'on met, la manière dont on fait participer aussi les managers aux décisions, tout ça, ça a un impact après sur sa fonction et puis peut-être aussi sur ses comportements après.
Est-ce que le télétravail a vraiment fait voler en éclats le modèle précédent ?
Non. Pour moi, le télétravail, c'est une modalité de travail. Mais ce n'est pas un changement radical d'organisation du travail. C'est-à-dire que l'on peut...
Je crois que Julien Leclerc, à côté de vous, n'est pas d'accord. Mais vous allez en débattre tous les deux.
Mais le télétravail, c'est... Vous pouvez être dans une organisation avec des décisions assez centralisées. On vous fait peu participer aux décisions. Et pourtant, on vous donne accès au télétravail. Le télétravail, c'est une manière, effectivement, de travailler. C'est une modalité de travail à distance, mais ça ne change pas, selon moi, en profondeur, les processus de décision et les rôles de chacun.
Ça doit quand même changer un peu le climat en entreprise, parce qu'il y a moins de collectifs.
Ah oui.
On est dispersés.
Ah oui.
Ah bah oui, mais alors moins de collectifs, moins de créativité aussi quand même.
Ça évidemment, ça a des impacts sur le relationnel. Je pense qu'avec la Covid en France, d'autant plus qu'on se caractérise beaucoup par un management assez top top-down, assez centralisé. Je pense que la Covid nous a fait gagner au moins 10 ans, voire 15 ans, dans ce type de pratique de travail par rapport à d'autres pays dans le monde. Mm-hmm. Mais en même temps, après la Covid, le retour au télétravail était plutôt au travail était la norme. Donc il y a encore du télétravail, mais est-ce que ça chamboule les modes de management et en plus dans le bon sens, je n'en suis pas sûre.
Les cadres managers qu'on rencontre nous disent que ça a complexifié encore plus la relation managériale avec cette difficulté à, et ça renforce la dichotomie entre l'intérêt et l'importance pour les collaborateurs d'avoir quelque chose d'individualisé, de pouvoir avoir une approche personnalisée et en même temps ce besoin de lien collectif. Ça a vraiment changé de ce point de vue. Je voulais juste revenir sur l'aspect du témoignage précédent sur l'accès au management, le fait que plus personne ne veut manager. J'apporterai quand même quelques nuances sur ce sujet puisque nous on voit que chez les jeunes cadres de moins de 35 ans, il y en a toujours 6 sur 10 qui envisagent de manager dans le futur. Ce qu'ils nous disent les jeunes cadres, c'est pas « je ne veux plus manager », mais c'est « peut-être pas tout de suite ». Pourquoi pas tout de suite ? Parce qu'ils ont bien compris que ça nécessitait une certaine expérience, une certaine personnalité, et ils nous disent, et ça, c'est nouveau, qu'ils ont bien conscience des contraintes du rôle. Vous le disiez, Julien Leclerc, tout à l'heure. Mm-hmm. Toutes les attentes qui pèsent sur les épaules des managers, la charge de travail que cela implique, c'est une lucidité qu'on voit chez les non-managers et qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Et il n'y a pas de désamour pour le management, mais une vraie conscience de sa complexité et ça peut repousser la décision de devenir manager. C'est plutôt ça qu'on voit dans nos études.
Salima Benhamou, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, effectivement. Je pense qu'on considère de plus en plus les managers comme des surhommes ou des surfemmes, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir une liste à la Prévert de compétences qui parfois sont contradictoires. On doit être très à l'écoute et en même temps on doit être déterminé dans l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés.
Donc, rester ouvert, ça, c'est rester même... ouvert, prendre la pression sur les épaules et garder le sourire.
Voilà, donc c'est pas étonnant que des managers de plus en plus et même des jeunes ne sautent pas tout de suite sur des postes d'encadrement. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les compétences de base, les compétences de base du manager qui, selon moi, et ça, ça ne s'apprend pas forcément à l'école, hein, c'est une personne qui doit d'abord faire preuve d'humilité. Ça, c'est important. Ce n'est pas le manager qui fait tout ou qui est responsable seul du succès de son équipe. Et les personnes aussi, dans une équipe, sont là aussi pour de bonnes raisons. C'est de faire un travail et de bien le faire. Mmh. Hein, ils ont une expertise. Et en même temps, faire preuve d'humilité, ça demande aussi, chez le manager, de la confiance en lui-même. Et très souvent, comme on leur met une pression énorme, c'est pas évident pour eux de pouvoir avoir confiance aussi en soi. Je pense aussi que l'écoute, savoir écouter et sincèrement écouter, c'est aussi une des compétences de base de ce qui fait un bon manager.
Et il semblerait que ce
ne
soit pas forcément le point fort en France, vu comment on parle de management vertical. On repart au standard. Retrouvez Guéric. Bonsoir Guéric.
Bonsoir. Alors moi j'ai 40 ans, je suis commercial dans le milieu des biotechnologies. Et au cours de ma carrière, je me suis retrouvé dans une situation qui... peut-être intéressante, à savoir qu'au sein d'une même société, j'ai eu une première expérience dans la filiale néerlandaise, puis par la suite dans la filiale française. Et donc j'ai pu expérimenter directement les différences de management au sein d'une même société, donc au sein d'une même façon de présenter les produits, une même philosophie. Et ce que j'ai remarqué, alors c'est mon expérience à moi, elle est peut-être anecdotique, c'est que là où la filiale néerlandaise était très axée sur la confiance, l'idée de collaborer ensemble, tirer dans le même sens, juger sur pièce, ne pas infantiliser. Et bien, à contrario, la filiale française était très pyramidale, à savoir il fallait valider, puis faire valider par le N+2 qui faisait valider par le N+3, avec une inertie folle de sentiment d'être infantilisé, et finalement, de se dire « mais pourquoi vous m'avez engagé ? Vous ne me faites pas confiance. Si vous êtes venu me chercher, a priori, c'est que je sais faire mon travail, et j'attends mon manager qui m'aiguille, pas qu'il me tape sur l'épaule en me disant « attends, je vais te montrer comment on fait ». Et donc c'était vraiment assez symptomatique, à tel point que moi j'ai décidé de démissionner. Et aujourd'hui je travaille dans une société en France, mais dans une société américaine, et mon chef est anglais, et ça change tout. Alors peut-être une petite anecdote qui est assez parlante.
Ah oui, allez-y.
Lors de mon premier jour dans cette société française, on va dire. Mon manager m'a jugé de pied en cap en faisant une petite remarque un peu acerbe sur ma chemise, qui ne devait pas être de la bonne marque, j'en sais rien. Là où mon manager britannique actuel, lorsqu'il a allumé la webcam, parce que c'était en visio dans ce cas-là, portait un maillot de foot de Sunderland. Donc, c'est assez parlant. C'est-à-dire que lui ne prétend pas, en fait. Il est qui il est, il m'aide, il ne cherche pas à jouer un rôle ou quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'ai envie de me défoncer pour lui et pour l'entreprise. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant.
Mmh. Salima Benhamou, ça c'est une question pour vous, puisque vous avez coécrit un rapport justement sur les pratiques de management en les comparant avec d'autres pays. C'était un grand rapport qui était paru il y a 5 ans. C'est très intéressant ce que nous raconte Guéric. La différence entre le management hollandais et français. Il y a vraiment des lignes de clivage en fonction des pays. Et là, c'est culturel.
Oui, c'est culturel. Alors, il y a des lignes de clivage en matière de pratique managériale. C'est culturel, oui, parce que la France, effectivement, c'est un pays où le statut social est très important, le statut centré sur le diplôme, sur un certain type de
savoir. On y revient, on en parlait déjà tout à l'heure.
Et ça, c'est vrai que dans d'autres pays, la notion même, je dirais, la manière dont on valorise le savoir et ce que l'on... Si vous voulez, comment on définit le professionnalisme dans les organisations, c'est aussi très... C'est quand même très différent du modèle français, où là, si on a un certain type de diplôme, on peut accéder à des fonctions d'encadrement. Dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Il faut passer par les différentes étapes, être opérateur et ensuite monter, prendre des responsabilités pour ensuite occuper des postes d'encadrement. Et j'aimerais aussi souligner que c'est autant valable pour le privé que pour la fonction publique.
Oui, oui.
En Allemagne, ceux qui accèdent à des fonctions d'encadrement, ce ne sont pas ceux tout de suite qui ont les bons diplômes. Mm-hmm. Ou des diplômes, on va dire, plutôt élevés. Ils doivent passer, être attachés à l'administration et ensuite passer toutes les phases pour pouvoir encadrer. Et
Julien Leclerc ?
Ouais, je suis toujours. Ça m'embête, ça donne du grain à moudre à Jacques Attali qui vient de traiter tous les entrepreneurs de dictateurs il y a 2 jours.
On va essayer d'être un peu moins caricatural.
Ça serait pas mal en tout cas. mais il a peut-être pris des trucs bien. J'ai toujours du mal quand on dit que la France est beaucoup moins bien que les autres pays. Après, moi, j'ai pas fait ce travail sûrement très sérieusement. Je pense que des crétins, il y en a partout et des gens bien, il y en a partout aussi. En tout cas, ma conviction d'optimiste presque naïf, c'est que ça bouge. Ça bouge d'abord parce que 80% des boîtes ont du mal à recruter,
oui.
Je le redis. Et donc forcément, ça rééquilibre les choses.
En fait, c'est la situation du marché de l'emploi qui fait bouger les lignes.
Oui, aussi. Forcément, ça, pas que, quand même. C'est aussi peut-être générationnel, j'en sais rien, mais on a aussi envie d'être épanoui, nous, en tant que patron, dans nos boîtes, on a envie d'être heureux, et il y a quand même, on a parlé de tout ce qui est compliqué en management, etc. Je suis sûr que Gaël Bourron nous trouve assez négatif, et je le rejoindrai. C'est aussi génial, c'est extraordinaire quand ça marche. C'est là où je ne suis pas d'accord sur la Covid avec vous, Salima Benhamou, c'est que en fait, l'entreprise, c'est un des derniers lieux de vivre ensemble de la société. Tous les jours, on est confronté à ces problématiques liées au vivre ensemble. Comment on fait que ça matche ? On prend des gens, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'aller recruter des gens d'univers très différents, de cultures différentes, d'âges différents, des hommes, des femmes, et de faire un truc commun, les emmener dans une aventure commune. Et quand même, le télétravail est venu vachement bousculer ce vivre ensemble, parce qu'il est venu renfermer des gens chez eux, ce qui a posé énormément de questions sur comment je fais projet commun avec trop de télétravail. C'est d'ailleurs le seul sujet sur lequel la CGT et le MEDEF se sont mis d'accord assez rapidement sur le fait qu'il ne fallait pas du 100% télétravail. Donc l'entreprise, c'est formidable quand ça fonctionne bien, et je pense que la plupart des gens ont envie que ça fonctionne bien. Mmh. On a envie que nos salariés soient heureux.
Mais on a envie d'être heureux au travail, tous aussi.
Oui, je crois.
Bah oui.
Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait. Et je pense qu'en France aussi. Et je crois que ça évolue dans le bon sens.
Gaël Bourron.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, dans un contexte de télétravail, d'hybridation, il y a aussi toute la question autour des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui viennent complètement bouleverser tout ce rapport au travail.
Alors expliquez-nous en quoi, ça c'est une vraie bonne question, en quoi l'IA bouleverse notre rapport au travail aujourd'hui ?
Parce que les managers se sont déjà emparés du sujet. Nous, dans nos études, on a vu que 4 managers sur 10 utilisent l'IA pas quotidiennement, mais régulièrement, dans leur quotidien de travail.
Mais qu'est-ce que ça change dans leur rapport à leurs collègues ?
Ça change beaucoup de choses, puisque c'est devenu pour eux indispensable de comprendre les limites de l'outil, les intérêts de l'outil, les opportunités de ces outils, pour eux, mais aussi pour leurs collaborateurs. Donc ça demande quelque chose qui est une transformation profonde du monde du travail, du monde du travail actuellement qui est en train d'arriver, qui est là maintenant, et pour lesquels, là encore, ça repose la question de ce que fait le manager, son rôle d'accompagnateur de ces transformations. C'est ça où je rejoins tout à fait ce que vient de dire M. Leclerc, c'est qu'on est dans un contexte où tout pousse à l'éclatement, en fait, que chacun est chez soi, qu'on n'est plus dans le même espace de temps, de travail, et du coup, le manager, il est là pour relier, il est là pour favoriser le lien, le vivre ensemble dans l'entreprise. C'est ça qui est important.
Salima Benhamou, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça bouscule à ce point-là les choses ?
Ça dépend. Nous, on travaille sur les impacts de l'IA dans le monde du travail. Les effets peuvent être très différents selon les cas d'usage, selon la manière dont on déploie les intelligences artificielles et les objectifs qu'on lui assigne. Et sur certains métiers, Ça les bouleverse, ça change, ça modifie pas en profondeur le travail, à savoir dans son contenu comme dans les relations de travail. Alors pour d'autres, effectivement, ça modifie en profondeur les relations de travail. Mais je pense qu'on, sur le lien entre l'IA et en quoi ça modifie le travail du manager, qui est quand même un autre sujet. Pour l'instant, on aimerait, bien sûr, mais ce n'est pas forcément ce que l'on observe, je dirais, aujourd'hui. J'aimerais quand même insister sur le fait que c'est important quand même aussi de quantifier les choses quand on veut comparer la France avec d'autres pays.
C'est-à-dire
quand on regarde toutes les données d'enquête à l'échelle européenne et que l'on constate que depuis 15 ans, les salariés français évoluent le moins dans des organisations qui leur permettent de travailler en équipe, comme vous le dites, c'est important, de travailler en confiance avec son manager, d'avoir de bonnes conditions de travail, de sentir que ce qu'il fait est utile pour une organisation. Ça, ce sont des choses que l'on peut chiffrer aujourd'hui et que l'on a fait à France Stratégie. Et on voit que, quelle que soit la taille, le secteur d'activité ou la structure des qualifications, la France est en retard. Et la mauvaise nouvelle, c'est que non seulement elle est en retard, mais en plus, ce type d'organisation de type apprenante, qui renvoie aux caractéristiques managériales et organisationnelles dont j'ai parlé, autonomie, participation, eh bien, baisse au profit d'organisations qui intensifient le travail. Et c'est pour ça que il est important de repenser les organisations du travail, les modes de management, mais aussi le recrutement des managers et ce que l'on attend du manager. Ça me semble important.
Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci, bonsoir Christelle Rebière, merci de prendre ma question, bonsoir à tous vos invités. Moi en fait c'est plus un témoignage et après peut-être une petite question. Donc moi je suis managé par mon N+1 qui est à distance et en fait je constate qu'il connaît pas mon quotidien au jour le jour et j'ai été évalué donc en fin d'année comme tous les ans et du coup moi ce que je constate c'est que voilà je déplore un peu ça que mon manager puisse même évaluer alors qu'il connaît pas du tout il connaît pas mon quotidien vraiment
et votre N+1 il est plus jeune que vous.
Il est plus jeune que moi, effectivement. Moi, j'ai 50 ans. Lui, il a une trentaine d'années. Il est arrivé dans la société il y a presque 2 ans. Voilà. Et ça
vous dérange ?
Ben oui, ça me dérange parce que, si vous voulez, par rapport à l'évaluation que j'ai eue, voilà, moi, je considère que c'est pas forcément significatif parce que il connaît pas forcément ce que j'ai vu au jour le jour, les difficultés que je peux rencontrer. Et voilà. Et après, ma question, vous avez répondu partiellement, c'est-à-dire que voilà, est-ce que les managers aujourd'hui sont parachutés par promotion sur un poste de management, ou alors est-ce qu'ils ont suivi une formation spécifique voilà.
Merci beaucoup, Serge. Il y a beaucoup de choses. Le parachutage, Salima Benhamou.
Bah, oui, bah c'est
on prend souvent quelqu'un qui est très bon à un poste et puis on lui dit bah, tu vas devenir manager, mais il ne sait pas ce que c'est.
Ça rejoint ce que je disais et ce que de nombreux chercheurs ont déjà écrit, c'est le diplôme, la valeur du diplôme. On est encore, des personnes peuvent accéder à des postes d'encadrement parce que ils vont être peut-être très bons techniquement, mais en matière d'encadrement, de management d'équipe, ce n'est pas le cas.
Après, il y avait quelque chose qui était très intéressant, enfin, il y avait plusieurs choses dans ce que disait Serge, c'était le management à distance, ça ne marche pas. Gaël Bourron.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette nécessité quand on est manager de ne pas manager hors sol, d'avoir des compétences techniques et de comprendre les tâches qui sont effectuées par ses collaborateurs, et c'est quand même plus facile de le faire si on est sur site que si on est tout le temps à distance, évidemment. Donc ça pose ce problème du 100% télétravail, qui est aujourd'hui quand même une très très faible minorité des situations. Dans la plupart des cas, le télétravail, c'est 2 ou 3 jours par semaine. Mais cette problématique du management purement à distance, oui, elle est problématique. Mais encore une fois, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que la plupart des managers arrivent par la promotion interne. Donc la plupart ont quand même cette expertise technique.
On va finir rapidement avec un dernier appel. Bonsoir Blandine.
Bonsoir.
Vous êtes à Lyon. Rapidement,
oui,
pardonnez-moi.
Merci de prendre mon appel. Je vous appelais parce que je suis psychologue et j'interviens depuis 12 ans auprès de professionnels dans le cadre de médecine du travail ou des gens que j'accompagne en cabinet. Et je vois de plus en plus de managers qui sont pris dans des conflits éthiques insolvables, qui sont très préoccupés par leurs équipes, par les salariés, qui essayent de discuter de la politique managériale qu'on les contraint à appliquer, jusqu'au moment où ça les met dans des tels conflits que la seule option, c'est de quitter l'entreprise. Et finalement, c'est aussi des gens souvent qui arrivent à sentir à des moments la violence que peuvent présenter certaines demandes qui leur sont faites et qu'on leur demande d'appliquer. Et
qui sont pris entre deux feux. Finalement, ils sont pris entre deux feux et ils n'arrivent plus à gérer ça. Qui veut répondre sur ce thème? Julien Leclerc.
Oui, on redit, vous êtes chef d'entreprise. Pour le coup, s'il y a bien un sujet sur lequel on est tous d'accord depuis le début de l'émission, c'est la responsabilité de la gouvernance tout en haut. Et sur la nécessité, ça devient de plus en plus difficile d'avoir ce type de responsabilité, d'autant plus si on est entre deux feux et qu'on n'a pas les moyens d'agir. Moi, je pense qu'il est indispensable, oui, de revoir complètement l'organisation du travail, de revoir le fonctionnement des entreprises. Je vous assure qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de le faire. Je suis très engagé dans une association que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui se réfléchit tous les jours sur comment améliorer l'expérience de vivre au travail. J'ai vu en écrivant ce bouquin, je suis allé dans des boîtes qui font les vacances illimitées, les horaires à la carte, la semaine de 4 jours, etc. Des boîtes qui sont en train d'essayer de mettre en place des choses hyper modernes, main dans la main.
Parce que les salariés sont aussi de plus en plus exigeants.
Ils sont, mais bien sûr, l'exigence, elle monte. Elle est en plus formulée de manière très individuelle, je le redis. Le garant de l'intérêt collectif aujourd'hui, il est tout en haut. C'est-à-dire que les salariés, pas tous bien sûr, mais beaucoup, quand ils formulent ces exigences, ils pensent à eux et à leur intérêt personnel. Donc c'est comment on arrive à répondre oui, parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de répondre oui à une demande personnelle, et en même temps, comment je garantis un équilibre collectif qui fonctionne. Et c'est pas tout écrit, c'est pour ça, oui, il faut former, mais il faut surtout apprendre à écouter, il faut faire de la communication non-violente, il faut être suffisamment sûr de soi pour accepter qu'on n'a pas toujours raison, ce que vous avez très justement dit tout à l'heure, Madame Bellamo.
Ce qui n'est pas facile.
Ce qui est très dur. C'est tout ça, et tout ça, c'est du vivre ensemble. Le sujet, il est passionnant, il mérite qu'on s'y penche tous.
Très rapidement, une phrase pour conclure, Gaël Bourron.
Oui, l'entreprise tout entière doit jouer un rôle pour créer un environnement dans lequel les managers se sentent finalement soutenus, et ça passe par des discussions ouvertes, de la co-construction. C'est vraiment ça qui va faire le futur du management.
Et Salima Benhamou.
Malgré notre retard, la France possède des atouts indéniables. C'est son rapport au travail, beaucoup d'engagement. Et je pense qu'il faut absolument changer les organisations et s'appuyer sur les ressorts spécifiques des Français.
En tout cas, si j'ai bien compris, le mouvement est en route et c'est une bonne nouvelle. Merci à vous trois et merci à tous ceux qui nous ont appelés au standard.